Le dimanche matin, très tôt, Marie de Magdala se rendit au tombeau. Il faisait encore très sombre. Elle vit que la pierre fermant l'entrée du sépulcre avait été ôtée de devant l'ouverture. Alors, elle courut prévenir Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. « On a enlevé le Seigneur de la tombe, leur dit-elle, et nous n'avons aucune idée de l'endroit où on l'a mis. » Pierre sortit donc avec l'autre disciple et ils se rendirent tous deux au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple, plus rapide que Pierre, le distança et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il vit les linges funéraires par terre, mais il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva alors. Il entra dans le tombeau, vit les linges qui étaient par terre et le linge qui avait enveloppé la tête de Jésus, non pas avec les linges funéraires, mais enroulé à part, à sa place. Alors l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier, entra à son tour dans le tombeau. Il vit et il crut. Il vit et il crut. En effet, jusque-là, il n'avait pas encore compris que Jésus devait ressusciter, comme l'avait annoncé l'Écriture. Les deux disciples s'en retournèrent alors chez eux. Les quatre évangiles nous parlent de la résurrection de Jésus. Chacun des apôtres, ou de ceux qui ont écrit l'évangile, comme Marc, a un point de vue particulier. Et là, Jean parle de sa propre expérience. Il nous parle de cette découverte extraordinaire qu'il va faire. Alors, je vais donner la parole à Jean. Je vais le faire parler un petit peu à travers cette rencontre avant d'aller plus loin. Donc, c'est Jean qui parle, l'apôtre. Nous étions enfermés dans la maison. Nous pensions que tout était fini ce vendredi soir. Enfermés à clé. N'importe quel bruit nous faisait trembler. Nous avions vraiment peur. Il faut dire que toute notre espérance ont été évanouies. Nos rêves se sont envolés. C'est que je l'ai vu de mes propres yeux, cloué sur la croix, comme un brigand, comme un voleur. Nous avons passé 3 années extraordinaires avec lui. Nous avons pensé que nous allions faire la révolution, que nous allions libérer le peuple, que nous allions chasser les Romains, qu'enfin le Messie allait régner. Mais ce vendredi a sonné comme la fin de toute chose. On a arrêté Jésus, on l'a crucifié. Et avec sa mort, ce sont toutes nos espérances qui sont mortes. Ah, vous savez, je me rappelle le jour où il passait devant le lac de Tibériade. Mon frère Jacques et moi, nous étions en train de travailler avec papa. Il nous a regardés et nous avons entendu ces mots. « Jacques, Jean, suivez-moi. » Vous savez, on ne pouvait pas résister à cet appel. Une voix puissante, une voix forte, une voix irrésistible. Une voix qui nous a attirés vers lui. Nous l'avons suivi. Je l'ai tout de suite aimé. J'étais peut-être le plus jeune de la bande, le plus jeune des disciples qui l'ont suivi. mais quelque chose entre lui et moi s'est passé. Une sorte d'intimité a enveloppé notre cœur, le sien et le mien. Je l'ai aimé, mais il faut dire que lui aussi, il s'est pris d'affection pour moi. Et il m'aimait, j'ose le dire, peut-être d'une manière particulière, pas plus que les autres, mais différemment des autres. J'étais même capable, parfois, de poser ma tête sur sa poitrine. Et quand je le faisais, je sentais, non, plus que cela, j'entendais les battements de son cœur. C'était un langage d'amour, un langage de chaleur, un langage de paix. Et quand je le faisais, c'était déjà le ciel sur terre. J'étais comme transporté dans le royaume de Dieu. Ce n'était pas des battements d'un cœur, c'était les battements du cœur de Dieu que j'entendais. Et quelle paix, quelle sérénité. Je l'admirais dans la manière dont il entrait en interaction avec les gens. Il avait toujours une manière surprenante de leur répondre, de leur parler, de les toucher, d'être en contact avec eux. Quand il interagissait avec les gens, c'était de la pureté, c'était de la compassion, c'était de l'amour, c'était de la patience. Je me rappelle cette femme qu'on a voulu lapider. Elle a trouvé le salut grâce à lui. « Va, femme, lui a-t-il dit, moi non plus, je ne te condamne pas. » Je me rappelle cet aveugle né, il avait 38 ans. 38 ans. Et Jésus, en posant ses mains sur lui, il lui a redonné la vue, il lui a redonné la vie, il lui a redonné l'espérance. Je me rappelle Marthe et Marie, affligées par la perte de leur frère Lazare. Je me rappelle surtout le chagrin de Jésus, ses larmes qui ont coulé, parce qu'il était profondément touché de la détresse de ses amis, Marthe et Marie. Il a pleuré avec ceux qui ont pleuré, comme il s'était réjoui avec ceux qui se sont réjouis. Je me rappelle quelque chose d'incroyable qui s'est passé juste vendredi, il y a 3 jours. Il a pris une bassine, il a mis un linge autour de lui, il s'est assis devant nous, les disciples, lui le maître, et il nous a lavé les pieds. Vous imaginez? Ça ne se faisait pas. Je n'avais jamais vu aucun rabbin de nos grands rabbins le faire. Au contraire, c'était à eux qu'on lavait les pieds. Et voilà que le maître se fait serviteur, esclave de nous, les disciples. Je me rappelle qu'un jour, il nous a pris, Pierre, Jacques, mon frère et moi, et nous a amenés sur une haute montagne. Et là, il nous a fait partager quelque chose d'unique. Tout d'un coup, il a été transfiguré, transformé, et il est devenu plus éclatant que la lumière. Et ce jour-là, nous avons su qu'il ne pouvait venir de la terre, mais qu'il vient d'un autre monde véritablement. Mais les autorités, jalouses, ont cherché à le faire mourir. Alors qu'il faisait le bien, on voulait lui faire du mal. La nuit de Pâques, nous nous sommes rendus dans un jardin, le jardin de Gethsémani, connu dans tout Jérusalem. Nous ne comprenions pas ce qui se passait dans le cœur de notre Seigneur Jésus. Il était troublé, angoissé, et nous, nous étions fatigués et nous dormions. Et j'ai honte quand j'y pense. Il avait besoin de nous. Il nous a demandé de veiller avec lui. Le sommeil nous a terrassés. Et lui, il priait. Et ses prières étaient l'expression de la souffrance la plus atroce. Et pendant qu'il priait, Voilà qu'une horde de soldats est arrivée. Ils l'ont arrêté. Ils l'ont traité comme si c'était le dernier des voleurs, le dernier des coupables. Ils l'ont traîné comme un brigand. Ils se sont moqués de lui. Ils l'ont amené devant Pilate, le gouverneur, et Pilate l'a condamné à mort parce que c'est ce que nos autorités voulaient qu'il lui arrive. Condamné à mort, lui qui n'a jamais fait aucun mal à personne. Je ne pouvais pas rester loin. Je l'ai suivi. Je le voyais traîné par les soldats avec une croix qu'il ne pouvait même pas porter. Je l'ai vu frapper à coups de fouet. J'ai vu la chair qui s'arrachait de son dos. J'ai vu les grumeaux de sang qui jaillissaient de son crâne parce qu'on a mis une couronne d'épines sur sa tête. Je l'ai vu soulevé par les soldats sur une croix. Et moi, j'étais au pied de la croix. Ce qui est surprenant, c'est de l'entendre parler quand il est sur la croix. Je n'en reviens toujours pas. Qu'il ait pu dire à l'égard de ceux qui étaient en train de se moquer de lui, à l'égard de ceux qui l'ont crucifié, « Père, pardonne-leur. » J'en suis encore bouleversé quand j'y pense. Et alors qu'il souffrait affreusement, atrocement, il n'a pas oublié sa maman. Elle était tout à côté de moi. Il l'a regardée. Je ne sais pas comment il a trouvé la force de parler, mais il l'a fait en me disant, « Jean, voici ta mère. » Et il a parlé à sa maman en lui disant, « Mère, voici ton fils. » Il s'inquiétait pour elle. Il ne voulait pas qu'elle reste seule après son départ. Tiens, pendant que je suis en train de me rappeler tout ça, j'entends du bruit à la porte. Je me demande bien qui peut être. « Ah, c'est Marie, Marie de Magdala. Mais qu'est-ce que tu as à être toute paniquée? Qu'est-ce que tu me dis ?» Qu'on a enlevé le corps de Jésus? Alors là, quand j'entends ça, vous savez ce que je fais? Je me précipite vers le sépulcre. Une vive émotion m'a saisi. J'étais avec Pierre. Pierre est sorti avant moi. Je l'ai suivi. Et comme j'étais plus jeune, je l'ai devancé, le pauvre. Peut-être que parce que j'aimais d'une manière particulière Jésus, j'ai trouvé plus de force et d'énergie. Et je suis arrivé le premier au tombeau. Et quand je suis arrivé, je n'ai pas osé entrer. Mais j'ai vu le tombeau vide. Et j'ai vu les bandelettes qui étaient là. Pierre, lui, c'est quelqu'un de courageux. Il entre dans le tombeau. Il se promène. Il examine. Il regarde. Et je le vois se creuser la tête. Je le vois réfléchir. Je fais comme lui alors. Moi aussi j'entre. Et je regarde. Des bandelettes sont là. La partie des bandelettes qui entourait la tête de Jésus, c'est bizarre. Elle est pliée. Elle est rangée. Et elle est posée à part. Alors je réfléchis. Si on avait volé le corps de Jésus comme Marie l'a pensé, on ne l'aurait pas traîné tout nu, on l'aurait emmené avec les bandelettes. Et si on avait volé le corps de Jésus, comment est-ce que le linge a été soigneusement plié et posé? J'avais même l'impression que le linge gardait encore la forme du corps. Et pour moi, c'était l'évidence. Ce n'est pas un enlèvement, ce n'est pas un vol du corps, c'est une résurrection. J'ai vu et alors j'ai cru parce que j'ai vu des preuves que Dieu m'a données pour croire. Jésus est ressuscité. Oui, il est ressuscité. Et alors, mes espérances renaissent. Et alors, ma vie est retrouvée. Et alors, la force de la résurrection m'envahit. Et alors, la détresse et la peur m'ont quitté. Jésus est ressuscité. Le tombeau est vide. » Voilà, Jean a fini. Le tombeau est vide. Et vous savez que la foi chrétienne, ce n'est pas une foi qui repose sur l'imaginaire, qui repose sur l'imagination, sur la fiction. Ce que nous le croyons parce que nous avons des preuves solides de le croire. Vous voyez, la preuve la plus solide pour croire en la résurrection, c'est le tombeau vide, comme Jean et Pierre l'ont trouvé. Ils sont entrés dans ce lieu, dans ce tombeau. Vous savez, les tombeaux étaient presque de petites chapelles. On pouvait entrer dedans, c'était creusé dans le roc. Ils sont entrés et ils n'ont pas vu le corps. Ils ont trouvé le tombeau totalement vide. Les chercheurs aujourd'hui, tous les chercheurs de tous les bords, tous ceux qui étudient sérieusement la parole de Dieu, les passages qui parlent de la résurrection, sont tous d'accord que le tombeau était vide. Le tombeau était vide parce que Jésus est ressuscité. Et il ne suffit pas de dire que le tombeau est vide et alors que Jésus est ressuscité. La Bible nous donne d'autres preuves encore de la résurrection de Jésus. Savez-vous que plus de 500 personnes ont vu le Christ ressuscité? 500 personnes. Ils n'étaient pas tous d'accord. Ils n'ont pas pu se mettre tous d'accord pour faire croire à la résurrection de Christ. C'était des gens totalement différents les uns des autres. Et Paul a écrit aux chrétiens de Corinthe en leur disant « Jésus est ressuscité et j'en ai la preuve, 500 personnes l'ont vu, dont Pierre, Jacques, les apôtres, mais 500 autres personnes. » Et ces 500 personnes, la plupart d'entre elles étaient encore vivantes. Autrement dit, n'importe qui parmi les Corinthiens pouvait aller leur poser des questions et leur demander ce qu'il en était. Et effectivement, la preuve est là. Je voudrais lire ce passage dans que Paul a écrit aux Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 15. Il faut des Bibles avec des feuilles plus épaisses. Hein. Je vous ai transmis comme un enseignement de première importance ce que j'avais moi-même reçu. Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures. Il a été mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour comme l'avaient annoncé les Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Après cela, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart vivent encore aujourd'hui. Quelques-uns d'entre eux seulement sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. En tout dernier lieu, il m'est apparu à moi comme à un enfant né après terme. Donc le Seigneur Jésus, une fois ressuscité, il est apparu à tellement de personnes pour donner la preuve de sa résurrection. Et nous avons des raisons solides pour le croire. C'est ce que les apôtres ont cru et c'est ce qu'ils ont annoncé, vous savez où? À Jérusalem. Autrement dit, là où Jésus a été crucifié et enterré. C'est là où il a été enterré que les apôtres ont dit « Jésus est ressuscité ». Si cela était faux, les autorités juives, les Romains, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire? Se rendre au tombeau, retirer le corps et leur dire « Qu'est-ce que vous nous racontez? Regardez, le voilà le corps de celui que vous prétendez être ressuscité. » Mais Jésus est ressuscité et le tombeau était vide et les autorités ne pouvaient absolument pas montrer ce corps de Christ. Et vous savez pourquoi? Parce que le tombeau était vide. Alors, chaque fois que je dis « et vous savez pourquoi ?», vous allez répondre « parce que le tombeau était vide ». On va faire un test. Hein. Et vous savez pourquoi? Parce que le tombeau était vide. Les apôtres ont prêché la résurrection. Et vous savez pourquoi ? Parce que le tombeau était vide. Alors bien sûr, certains ont cherché à démontrer qu'il y a une explication au tombeau vide. Parce que quand on ne veut pas croire, on trouvera toujours des raisons de ne pas croire. Alors on a réfléchi et réfléchi et on a trouvé des raisons. Mais le tombeau était vide. Et il n'y a aucune autre explication à donner sinon la résurrection de Jésus. Alors, la première explication qu'on a donnée, c'est que si le tombeau était vide, c'est parce que le corps de Jésus a été volé, devinez par qui ? Par les disciples. Les disciples de Jésus sont allés voler le corps. Mais cela est impossible pour des tas de raisons. La première, c'est qu'il y avait une grosse pierre qui fermer la tombe. La deuxième raison, là je passe vite, hein, la deuxième raison, c'est que la tombe était gardée par des soldats. Les soldats étaient au nombre de 4. Ils ne pouvaient pas dormir parce qu'un soldat qui dormait pendant la garde pouvait être condamné à mort. Et même si l'un d'eux dormait, il y en avait quand même au moins 4. Donc, les apôtres ne pouvaient pas venir en cachette, passer discrètement au risque de leur vie, parce qu'on les cherchait, ils avaient peur, ils étaient cachés, ils ne pouvaient pas aller voler le corps. Mais la raison la plus importante qui nous montre que les apôtres ne pouvaient absolument pas voler le corps, c'est tout simplement celle-ci, qui est une question. Pourquoi est-ce qu'ils auraient volé le corps ? Ah, on dira pour montrer ou pour faire croire à la résurrection de Jésus. Mais une question très importante vient à l'esprit. Si les apôtres avaient tout manigancé, s'ils avaient vraiment tout inventé pour faire croire que Jésus est ressuscité, comment est-il possible qu'ils soient allés jusqu'à mourir pour leur conviction ? N'est-ce pas ? Comment est-ce qu'on pourrait mourir pour un mensonge ? Qui mourrait pour un mensonge ? Imaginez les apôtres, les disciples. Ils étaient cachés, ils étaient déprimés, désespérés. Ils ont vu celui qu'ils croyaient être le Messie mourir sur la croix. Et avec lui, leurs espérances étaient terminées. Et puis, en un clin d'œil, on les trouve transformés. Et vous savez pourquoi ? Ah bah dites donc, hein. Là je vous surprends. Hein. Et vous savez pourquoi ? Parce que le tombeau était vide. Ils étaient totalement transformés. Qu'est-ce qui a fait cette transformation ? Imaginez qu'ils aient inventé l'histoire de la résurrection. Comment est-ce possible que du jour au lendemain, alors qu'ils étaient découragés, déprimés, cachés, les voilà en train de prêcher l'Évangile, les voilà en train d'abandonner toute leur vie pour se consacrer à leur nouvelle mission, la mission de proclamer la bonne nouvelle. Ils étaient cachés, ils avaient peur, les voilà prêts à prendre tous les risques. On les a arrêtés, on les a mis en prison, on leur a ordonné de se taire, ils n'ont pas voulu, ils étaient prêts à être persécutés, ils étaient prêts à aller jusqu'à la mort. Vous savez que les 11 apôtres sont finis par une mort atroce. Les uns ont été flagellés jusqu'à la mort, les autres ont été décapités, d'autres ont été jetés aux lions et d'autres ont été meurtris par des coups d'épée. On leur a coupé la tête. Pourquoi est-ce qu'ils ont accepté tout ça ? Vous savez pourquoi ils ont accepté tout ça ? Merci Samuel. Le tombeau était vide. Ils étaient absolument convaincus que Jésus est ressuscité. Et c'est cela qui a transformé leur vie. C'est cette vérité qui a fait de ces pêcheurs de poissons, de ces campagnards, de ces ignorants, des apôtres qui ont bouleversé le monde. C'est cette vérité qui a fait que des inconnus deviennent des révolutionnaires, non pas politiques, mais des révolutionnaires du cœur. Leur vie a été transformée, et par la transformation de leur vie, nos vies sont et ont été transformées. Et vous savez pourquoi ? Parce que le tombeau était vide, parce que Jésus est ressuscité. Oui, vraiment, il est ressuscité. Il n'y a absolument aucune raison de croire que le tombeau n'était pas vide et de croire que les disciples ont volé le corps. C'est absurde, n'est-ce pas ? C'est l'explication la plus grotesque. Parce que c'est vrai qu'on peut mourir pour ses convictions. C'est vrai que je pourrais mourir pour ma foi, mais à la condition que je crois qu'elle est vraie. Il y a des gens qui meurent pour leurs convictions, mais ils meurent pour leurs convictions parce qu'ils sont persuadés que ce qu'ils croient est vrai. Trouvez-moi une personne qui mourrait pour quelque chose qu'elle sait pertinemment être un mensonge. C'est impossible. Et donc les apôtres ne pouvaient accepter la mort, la décapitation, la crucifixion pour un mensonge qu'ils savaient pertinemment être un mensonge. Non, c'est parce qu'ils étaient absolument convaincus. Et vous savez pourquoi ils étaient convaincus ? Parce que le tombeau était vide. Donc, on a dit le tombeau était vide. Attention, nous avons une explication. Les disciples ont volé le corps. On voit que ça ne tient pas la route. D'autres ont trouvé une explication encore plus grotesque. En réalité, disent-ils, Jésus, sur la croix, n'était pas vraiment mort. Il s'était évanoui. Et quand on l'a pris et qu'on l'a mis dans la tombe, le froid de la pierre l'a réveillé. Et vous imaginez donc Jésus, tout ensanglanté, avec la couronne d'épines peut-être encore sur la tête, avec la chair encore lacérée, vous le voyez dans la faiblesse la plus affreuse, dans une laideur insupportable, vous le voyez ouvrant la pierre, la première chose, vainquant les soldats qui étaient là pour surveiller la tombe. Et plus encore, se tenant devant les apôtres en leur disant « C'est moi. Vous avez vu ? Je suis ressuscité. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ?» Et les apôtres disent « Oh, mais extraordinaire ! Mais c'est vrai que tu es ressuscité. Tu es presque mourant, mais tu es ressuscité, tu es vivant. Tu nous apportes la vie. » Vous savez que des gens croient ça ? C'est impossible que Jésus ait pu être évanoui. Et même s'il s'était évanoui, moi je suis sûr d'une chose, il ne serait pas revenu voir les apôtres. Et s'il était revenu les voir, il leur aurait dit simplement la vérité. Parce que le caractère de Jésus, tel que nous le connaissons, ne peut pas être un homme qui ment. C'est un homme qui ne dit que la vérité. Donc il aurait dit à ses apôtres, je ne suis pas mort. Je me suis juste évanoui. Et là, voilà, prenez soin de moi parce que je suis encore dans la faiblesse, etc., etc. Mais non, les apôtres n'ont pas vu un fantôme, parce que si Jésus était revenu comme ça, ça aurait été plus un fantôme, c'est-à-dire un homme qui n'avait aucune force. Non, ils ont vu un homme métamorphosé, un homme transformé, un homme vivant pour de vrai, un homme capable de franchir les portes, de franchir les murs, un homme capable d'accomplir des choses incroyables. Et cela a été convaincant pour eux qu'il est vraiment ressuscité. Ce n'était pas un homme évanoui. Et vous savez pourquoi ils étaient convaincus ? Parce que le tombeau était vide. Frank Morrison était un homme qui était mais vraiment athée et rationaliste. Il a grandi dans une famille athée, rationaliste, et il pouvait croire à la rigueur que Jésus était un homme bon. Mais l'idée de croire que Jésus est ressuscité, pour lui, c'était une absurdité inacceptable. Alors, un jour, il a décidé de faire des recherches pour écrire un livre dans lequel il allait prouver aux chrétiens et au monde entier que la résurrection est une fable à dormir debout. Il a commencé ses recherches. Il a pris le temps de lire les textes, de faire des recherches archéologiques. Et petit à petit, plus il avançait dans la rédaction de son livre, plus la conviction que Jésus est ressuscité s'imposer à lui. Et vous savez pourquoi ? Parce que le tombeau était vide. Parce qu'il ne trouvait absolument pas d'explication autre que par la résurrection à la vacuité du tombeau. Le tombeau était vide et pour lui, c'était la preuve de la résurrection de Jésus. Alors, il a fini par écrire son livre qui s'appelle « Qui a déplacé la pierre ?» Et c'est devenu un best-seller extraordinaire qui montre vraiment à tous ceux qui cherchent la vérité que Jésus est ressuscité. Vous pouvez l'acheter aujourd'hui. « Qui a déplacé la pierre ?» Frank Morrison. Mais il y a des dizaines de livres écrits par des chrétiens et des non-chrétiens qui montrent que la résurrection est une réalité et non pas une fiction. C'est une preuve historique. Et les chrétiens ne croient pas en laissant leur imagination vagabonder. Ils ne croient pas simplement, ils appuient leur foi sur la vérité de l'histoire. Nous avons des preuves. Nous pouvons vraiment être fiers de ce que Dieu nous a laissé dans sa parole parce que nous ne croyons pas malgré tout. Nous croyons au contraire parce que nous avons des preuves solides. Frank Morrison a cru en la résurrection parce qu'il avait des preuves. Jean a cru en la résurrection parce qu'il a vu le tombeau vide. Et chacun de nous, Dieu lui donne assez de preuves pour croire. Vous pouvez, si vous refusez de croire, toujours trouver des raisons pour lesquelles rejeter Jésus comme ressuscité. Mais si vous êtes sincère et sérieux et que vous voulez faire des démarches honnêtes, comme cet homme, Frank Morrison, en disant « Je vais chercher la vérité », et si vous faites les recherches, vous arriverez à la conviction que Jésus est ressuscité. Dieu vous donnera assez de preuves pour voir. Et comme Jean, vous pouvez dire « J'ai vu ». Mais vous aurez toujours besoin de quelque chose de plus, de croire. Parce que les preuves, ce n'est jamais à 100%. Parce que les preuves, ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Si Dieu voulait nous prouver la résurrection, il l'aurait fait. Si Dieu voulait prouver son existence, il le ferait. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous ayons une démarche de foi. Parce que c'est par la foi que nous pouvons établir une relation avec Dieu. Ce n'est pas par la vue que nous établissons la relation avec Dieu, c'est par la confiance que nous plaçons en lui. C'est parce que nous croyons à son propos et nous croyons que Jésus est ressuscité en plus des preuves que nous avons. Nous ne pouvons pas nous fonder juste sur les preuves. Dieu attend de nous que nous fassions un pas de plus. Les preuves nous conduisent au tombeau vide. La foi nous conduit à croire que Jésus est le Fils de Dieu, que Dieu l'a ressuscité parce qu'il était innocent, parce qu'il n'a fait aucun mal. La résurrection nous donne en même temps un sens à la mort de Jésus. Parce que vous pourriez me dire, mais à quoi ça sert de croire en la résurrection ? Qu'est-ce que ça change ? Eh bien, ça change que, oui, Jésus n'est pas mort parce qu'il le méritait. Si Jésus n'est pas ressuscité, on pourrait croire aujourd'hui que c'était un homme comme les autres, il a bien mérité ce qu'il a mérité, et maintenant c'est une histoire ancienne. Mais en réalité, la résurrection nous renvoie à cette question. Mais qui est vraiment Jésus ? Qu'est-ce qu'il représente ? Et la foi, c'est cette déclaration que nous faisons. Je crois au Seigneur Jésus. Et si je l'invoque, si je me tourne vers lui en lui disant « Seigneur Jésus, je crois que tu es ressuscité et je crois que tu es le Dieu vivant et vrai », alors ça changera tout pour nous. Comme cela a changé la vie des apôtres, comme cela a changé la vie des millions de gens aujourd'hui. Croire en la résurrection, c'est recevoir de Dieu une nouvelle possibilité de vie. Comme Jésus est revenu de la mort, nous aussi, nous revenons de la mort d'une certaine manière. Non pas la mort physique, mais la mort spirituelle. Parce que la Bible nous dit que nous avons été coupés de Dieu et nous étions à ses yeux morts. Mais nous avons besoin d'être revivifiés pour entrer à nouveau en contact avec Dieu. Et cette revivification ne se fait que par l'action de Dieu dans notre vie. Et si Jésus n'était pas ressuscité, il ne pourrait pas nous vivifier nous-mêmes. Mais parce qu'il est vivant, il nous communique la vie. Jésus est ressuscité. Et vous savez pourquoi ? Parce que le tombeau était vide. Peut-être que jusqu'à présent, vous n'avez pas fait le pas de la foi. Peut-être que vous pensez que Jésus est ressuscité. Oui, il pourrait être ressuscité. Peut-être que vous pourriez dire, Oui, comme Jean, je vois, mais je ne crois pas. Mais Dieu vous appelle aujourd'hui à croire que Jésus est ressuscité et qu'il est mort pour vous donner le pardon de vos péchés et pour vous conduire jusqu'à Dieu. Et vous savez que la résurrection veut dire que Jésus est Seigneur. La résurrection veut dire que Jésus reviendra et qu'il reviendra pour juger les morts et les vivants. Un jour, nous nous tiendrons tous devant lui. Un jour, nous rendrons compte, chacun de nous, devant Jésus, qui sera le juge de toute l'humanité. Et ce jour-là, qu'est-ce que nous lui dirons? Est-ce que nous lui dirons « J'ai vu et j'ai cru » Si je dis ça, il me dira « Va, je ne te condamne pas ». Mais si je lui dis « Je n'ai pas vu et je n'ai pas voulu croire », il nous dira « Tu ne mérites que la condamnation ». Si je lui dis « J'ai vu, mais je n'ai pas voulu croire », il te dira « Tu mérites la condamnation ». Parce que Jésus viendra, et aussi vrai que vous me voyez, un jour vous le verrez. Que vous soyez vivant ou mort, si vous êtes vivant, vous le verrez. Si vous êtes mort, il vous relèvera d'entre les morts, et vous vous tiendrez devant lui comme un coupable dans un tribunal. Et Jésus vous jugera, et il vous dira « Est-ce que tu as vu et est-ce que tu as cru ?» Et la réponse détermine soit ta condamnation, soit ta libération. Jésus te demande aujourd'hui d'accueillir par la foi cette vérité qu'il est ressuscité et qu'il est le sauveur du monde. Alors je te le demande, fais-le aujourd'hui, fais-le maintenant dans ton cœur. Je vous laisse quelques instants pour le faire, pour crier à Jésus en lui disant « Je veux que le jour où tu reviendras, je puisse te dire « J'ai vu et j'ai cru ».